Alors, on y va. Bon, ben, écoutez, c'est simple. Hein. Je vais garder le micro, mais la parole est à vous. Hein, parce qu'il est de toute façon trop court, le film. Donc, voilà. Qui ouvre le bal?
Alors, moi, généralement, il faut me redire les questions.
Oui, oui.
T'inquiète.
Alors, ben... oui, vas-y, et puis Domenico, vas-y.
Oui, je me posais finalement la question, est-ce que, on parlait de changement, de culture, d'entreprise, est-ce que c'est pas un peu une utopie à partir d'une certaine taille d'organisation, dans le sens où la culture se définit généralement en haut, elle permet dans l'organisation, en tout cas c'est ce qu'on espère, et vu les jeux de pouvoir qu'il y a en haut, qu'on ne dirige pas tout seul, dans ce type d'organisation, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, enfin qu'est-ce qui ferait que ce soit possible, réellement?
Alors, Bertrand, tu veux que je répète la question?
C'est clair. Non, je crois que j'ai entendu.
Je te laisse.
Moi, j'ai une question.
Ou Nadia ou...
Non.
Nadia, tu veux répondre?
Ouais.
Tout d'abord.
Ouais. Voilà, c'est bon.
Vous m'entendez?
Oui, c'est bon.
Tout d'abord, je crois que je pars du principe que ce qui est affiché sur le mur en termes de comportement, de toute façon, n'a rien à voir souvent avec ce qu'on voit sur le terrain. Et que de toute façon, ça se décide chacun quel est mon comportement, comment je contribue. Donc même si l'entreprise décide de choisir d'autres valeurs, d'aller dans une certaine direction, s'il n'y a pas de dialogue en bas, et que voilà, on ne décide pas quelque part collectivement d'aller vers autre chose, ça ne va juste pas marcher. Donc oui, ça peut rester une utopie si, comme beaucoup de choses qui restent théoriques, ma stratégie, etc., qui ne sont pas cascadées, c'est la même chose pour moi. Mais non, pour moi, la culture se construit, ouais. Pas totalement, mais à toutes les échelles.
Ouais. Tu veux dire quelque chose, Bertrand? Pendant que tu réfléchis, je me permets d'aller dans le sens de Nadia. Je pense que la réponse à ta question, elle est déjà dans ta question, parce qu'à mon avis, ton présupposé est faux. La culture ne se définit pas d'en haut. C'est une erreur de le croire. Alors, effectivement, le top peut influencer, peut avoir un effet sur cette culture, mais la culture, vraiment, elle vient de tous les niveaux de l'organisation, de toutes les personnes, si tu veux. En fait, je crois que j'écoutais justement ce matin un anthropologiste qui disait que la culture, c'est en fait le fond, le décor de nos pensées, dont on n'est pas conscient. Et d'ailleurs, j'ai un ami que j'ai fait venir d'ailleurs ici à Philosophie et Management, Emmanuel Tognuti, qui est un Suisse et qui s'occupe aussi de leadership et de transformation d'entreprise, et qui lui, plutôt que de définir la culture, tu sais, avec ses grands mots, valeurs, mission, vision, etc., avec le top management, non, il va dans l'entreprise, il compile les histoires des gens qui vivent dans l'entreprise. Et lui, il dit, c'est ça la culture, et c'est celle-là. En fait, il faut, pour lui, si tu veux, il ne faudrait pas que le top management vienne avec des nouvelles valeurs, etc. Mais il faut faire remonter, entre guillemets, expliciter ce qui vit déjà dans l'organisation. Et qui donne un sentiment d'appartenance, de fierté aux gens. Et qui malheureusement est trop souvent méconnu, justement, du management.
Pourquoi parle-t-on alors de transformation culturelle?
Ben voilà, mais ça, Bertrand va vous répondre.
Ça, j'ai pas entendu.
Pourquoi parle-t-on alors de transformation culturelle?
J'ai peur de dire des bêtises.
C'est pas grave, vas-y.
Pour moi, mais encore une fois, c'est la parole d'un retraité par abus de langage. Je suis très mal à l'aise avec ces... Alors, je suis pas mal à l'aise du tout avec la notion de culture. En revanche, je suis mal à l'aise avec l'usage qu'on peut en faire. Mais bon, on peut toujours épiloguer sur ce qu'on entend par culture, bien sûr, mais quand même, par essence, la culture est quelque chose qui est le résultat d'un lent mouvement de fond totalement inconscient, dont les manifestations sont totalement implicites. Et d'ailleurs, moi je vais vous faire un aveu, c'est que si vous me demandez quelles sont mes valeurs, je ne vous répondrai pas. Je ne sais pas. Alors j'étais très content de t'entendre parler d'anthropologue, parce que c'est la recommandation qu'on est en train de mettre en œuvre chez Michelin. C'est que, à la recherche de notre culture réelle, nous organisons en ce moment, des entretiens individuels avec des socio-anthropologues qui demandent à des gens placés à différents niveaux, dans différents secteurs de l'organisation, différents pays, différentes générations, etc., de leur parler de leur travail, de leur vie quotidienne, etc. Et qui, à partir de ces verbatims, si je puis dire, disent « Bon, ben, en fait, hein, vous savez, les valeurs de votre organisation, c'est ça, ça, ça et ça. » Ça, j'y crois. Transformation culturelle. Je crois que c'est possible. Ça prend du temps. Mais je ne crois pas qu'on puisse changer, mais encore une fois, hein, on peut débattre, je ne crois pas qu'on puisse changer directement, enfin on ne peut pas changer une culture par un processus direct. On n'attaque pas une culture, on n'attaque pas des valeurs. En revanche, on peut placer pendant un certain temps les personnes dans un mode de fonctionnement qui fait que ce qu'elles jugent digne de valeur va changer. Et qu'à terme, les valeurs et la culture ont changé, mais ça ne se fait pas en 6 mois, et ça ne peut, pour moi, ça ne peut pas se faire par décret. Autrement, on a quand même un risque très fort de manipulation, et dans certains cas, de viol de conscience. Mais je suis peut-être trop... extrémiste.
Et je voudrais rajouter, peut-être faire écho à ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'évoquais Alexandre Gérard, quand il parlait de transformation culturelle, parle d'actes qui remplissent le sceau de la confiance. Et je pense que, avant tout, la transformation culturelle, elle se fait par des actes et pas par des paroles. Donc, pas par des grands mots, etc., mais par le comportement au quotidien des personnes qui se sont eux-mêmes engagées dans un changement, dans une transformation, pour essayer peut-être de coller un peu plus à certains des principes qu'on a évoqués tout à l'heure. Et ça, ça peut, à terme, laisser penser aux gens qu'il y a quelque chose qui se passe, et ils vont peut-être se dire « Tiens, ce qui est important aujourd'hui est peut-être en train d'évoluer, oui, et reconnu de manière différente par le management. » Et de ce point de vue-là, je termine avec simplement Joe Badaraco, qui est un prof de leadership à Harvard, qui dit « Les managers sont les professeurs d'éthique de leur organisation, qu'ils en soient conscients ou pas. » Au travers de tout ce qu'ils disent et ne disent pas, mais surtout de ce qu'ils font ou ne font pas. Et ça, je pense que c'est ça fondamentalement qui est important. Et c'est pour ça que la transformation de toutes les personnes au sein de l'organisation, mais à commencer par le management, est fondamentale, est indispensable pour qu'il y ait peut-être la possibilité d'une évolution de l'organisation telle qu'on l'a évoquée ici.
Oui. Il y avait, peut-être avant, Domenico, tu avais une question, et puis à côté, et puis Geoffroy.
Oui, vous avez deux profils un peu différents dans la façon dont votre carrière s'est déroulée. Bon, pour vous, elle est terminée, mais pour vous, elle continue. Ce qui m'intéresse très fort, en fait, c'est la notion de permanence dans ce concept du leadership libérateur. Parce que d'un côté, si on a des gens qui changent de travail de plus en plus rapidement aujourd'hui, et c'est une tendance qu'on voit, moi, je le vois aussi avec des gens de ma génération, à mon niveau. À chaque fois, on est dans une notion de devoir refaire ses preuves. D'accord ? On arrive quelque part dans une nouvelle structure, dans un nouveau rôle. On teste, on se cherche. Hein, on a l'impression de se rechercher. Mais à chaque fois, il y a quand même cette dimension de on va devoir refaire ses preuves. Comment, finalement, pour un leader qui veut essayer d'instaurer ce concept de leadership libérateur, faire perdurer le concept alors que les équipes sont tout le temps en perpétuel mouvement et en perpétuel changement ? Parce que vous avez dit, le changement, il est là, mais il faut une certaine lenteur pour pouvoir justement faire durer ce concept-là. Comment est-ce que vous voyez ça, tous les deux ? Parce que vous avez deux visions qui sont aussi différentes de par votre parcours, à mon avis. Et voilà, je voulais poser la question.
Je dirais qu'en tant que leader, ce qui est important, c'est de se renouveler soi-même dans la direction qu'on veut. et de ne pas être pris un peu à droite à gauche, justement par ce qu'on peut imaginer imposé par ces transformations ou ces changements de poste, etc. C'est de sentir, moi, comment j'ai envie de grandir, c'est quoi mon prochaine étape, quels sont mes comportements, etc. Et est-ce que, donc, du coup, ça correspond par rapport à l'environnement dans lequel je suis ou pas. Et donc, si ça ne correspond pas, prendre la décision d'aller à un environnement qui respecte, qui fait grandir dans la direction que toi, tu veux. Parce que sinon, comme je disais tout à l'heure, on est continuellement pris dans cet acharnement de transformation qui est en extérieur de nous et qui nous mène peut-être vers quelque chose qui n'est pas aligné avec nos propres valeurs. Donc je pense que c'est très important de rester, d'avoir l'intérêt pour nous.
Mais donc la structure, mais donc là, parce que là on a un niveau purement individuel. Et donc si, bon, les structures, c'est un conglomérat d'individus qui composent les structures et qui les font changer, d'accord ? Mm-hmm. Dire les personnes morales, c'est finalement un ensemble de personnes physiques. Et comment justement les structures peuvent se changer si on a ce flot d'individus qui passe, qui revient et qui donc ne peuvent pas permettre à la structure de se figer dans ce processus lent tel que décrit là. Enfin, c'est ça aussi que j'aimerais bien comprendre, c'est cette dichotomie entre l'individuel et le structurel. Le
collectif, oui. Donc il faut que l'environnement permette justement ça et qu'il ne soit pas figé, justement. Parce que si on attend que les gens prennent tous leur chemin, donc ensemble, mais qu'on n'est pas prêt à accompagner cette transformation, ben oui, ça va bloquer, c'est clair. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a autant de polémiques aujourd'hui autour de l'RH, autour de quelles sont toutes ces anciennes structures qui ne soutiennent pas, qui ne laissent pas l'air, qui ne sont pas suffisamment flexibles, comme disait justement. Il faut que cette flexibilité personnelle, mais il faut qu'il y ait la même flexibilité au niveau de l'organisation. Et donc, il faut que les dirigeants laissent cette place-là, mais aussi les anciens process comme les RH, l'administration, il faut que ça accompagne tout. Donc, je pense que chaque département, structure, font aussi leur propre chemin et qu'il n'y a pas une façon de faire. C'est à l'entreprise de trouver la structure une fois qu'ils ont trouvé la direction, je pense, dans laquelle ils veulent aller. Si on met la structure d'abord, je pense que c'est un peu dangereux.
Bertrand, tu veux dire quelque chose?
C'est très difficile et très casse-gueule de répondre à cette question parce qu'on a 1000 exemples de choses qui se sont arrêtées. Moi, je voudrais, alors je ne veux pas avoir la présomption de donner une recette, simplement, il y a deux choses qui peuvent être dévastatrices dans ce processus. Un changement radical de posture à l'occasion d'un changement de leader, et avec la mise en place d'un leader extrêmement autoritaire qui est capable d'exiger l'arrêt pur et simple de tout, quelle que soit l'opinion que les équipiers peuvent en avoir. Ça ne se trouve pas quand même tous les jours, Dieu merci, mais ça existe, on l'a vu. Et la deuxième chose qui est préoccupante, c'est quand ce n'est pas un flux normal de mutation qui intervient, mais un véritable tsunami qui fait que tout d'un coup, pour une raison, enfin, c'est quand même assez incompréhensible de gérer si mal les équipes que ça puisse arriver, hein, mais tout d'un coup, il y a une majorité d'une équipe qui part dans l'espace de 3 mois. Bon, malgré tout, ça peut arriver. En revanche, si on évite ces deux cas de figure, le flux de personnes, l'expérience que j'en ai dans la partie qui est la plus avancée chez Michelin, qui est la partie industrielle, je ne vais pas vous dire qu'on est très avancé sur la partie des structures techniques et enfin de structures de services et de direction business du groupe. C'est maintenant que les choses se passent. Bon. Mais si on regarde les usines, ce qui est très intéressant de voir, c'est que dans ces équipes de fabrication, très vite, mais dès la première année, les gens s'organisent pour intégrer les nouveaux arrivants. Et que quand un nouvel arrivant arrive dans l'équipe, et ce n'est pas l'agent de maîtrise qui s'en occupe, il est présent, il n'est pas exclu, mais très vite, on explique au nouvel arrivant, ben, mon vieux, il faut que tu saches Ici, c'est comme ça qu'on bosse. Et là, ça crée quand même de la pérennité. Et moi, je vois vraiment dans les îlots ou dans les ateliers dans lesquels ça a bien démarré et où ça existe depuis 5-6 ans maintenant, je les vois mal revenir en arrière. Hein, parce que alors là, en revanche, on pourrait avoir des problèmes sociaux. Mais je ne peux pas répondre plus précisément.
Merci, oui.
Alors moi, j'ai un commentaire et deux questions à poser. Alors, je vais commencer par une question. J'ai eu la chance de travailler pour des Américains dans les années 70, 80, 90. Et on a vu que la plupart des auteurs sont américains et datent de cette période. Et on y fait encore référence aujourd'hui. J'ai eu la chance de travailler dans deux boîtes américaines qui étaient extrêmement intéressés par ces approches. Et donc, ils les ont mises en pratique. Bien ou mal, mais qu'ils les ont mises en pratique. Je dirais presque à l'américain. La notion de respect revient très souvent et replacée dans le contexte américain, le respect est une chose fondamentale puisque dangereuse sur un plan juridique. Donc, le respect doit exister dans toutes les relations de travail, a fortiori dans une entreprise internationale. Alors la première question liée à cela est de dire, mais si ces théories existent, elles existent, que ce soit les auteurs que nous avons vus ici ou d'autres, parce qu'il y en a quand même profusion dans ce domaine, qui vont dans la même direction, comment se fait-il que les entreprises, qu'on appelle aujourd'hui libérées et qu'on appelait autrement avant, mais comment se fait-il que cette approche n'ait pas pu percer, n'ait pas pu s'installer, n'ait pas pu se développer plus que ce n'est le cas aujourd'hui, et qu'il y ait peut-être un réveil à l'heure actuelle et une nouvelle envie de retourner vers ces valeurs d'entreprise. Ça, c'est la première question. Le commentaire, c'est de dire aussi que dans le management, dès l'instant où on décide de travailler dans ce sens, le choix des cadres va être fondamental. Parce que la personnalité des cadres va avoir plus d'importance que leurs compétences techniques. La technicité s'acquiert. La personnalité, c'est beaucoup plus difficile. C'est culturel, c'est toute une éducation. Et donc, ces approches, enfin, cette culture, il faut un peu d'empathie quand même, il faut un peu de psychologie, il faut aimer l'être humain aussi pour avoir envie. Il faut des capacités d'écoute réelles, sincères, hein, pour ne pas tomber dans le risque de la manipulation ou de détruire en une fois ce que l'on a mis autant de temps à construire. Donc, ça, c'est un commentaire. Et la dernière question, la deuxième question est, dès l'instant où j'ai envie d'appliquer, de raviver cette culture d'entreprise, est-ce que je dois vraiment communiquer cette décision à l'entreprise au risque d'être incompris? Ou est-ce que je ne dois pas plutôt, avec mon management, mettre en œuvre cette approche pour la faire découvrir par la suite?
La réponse est dans la question, mais enfin, je laisse Bertrand ou Nadia répondre à tes deux questions.
Je vous remercie. Je comme tu veux. C'est vraiment comme tu veux.
D'autant que je m'explique pas. Si, si, je m'explique.
Ok. Donc, tu vas me rappeler que deuxième question après. Oui. Donc, pourquoi, si j'ai bien compris, c'était pourquoi cette question de respect n'est pas plus répandue dans les entreprises depuis que ça a démarré par les Américains dans les années.
Surtout pourquoi ce type d'approche n'est pas plus répandu aujourd'hui.
je pense qu'on peut dire ça de beaucoup de choses dans la vie, et pas juste des entreprises. On peut dire pourquoi il y a autant de conflits encore un peu partout. C'est pourquoi on y est, pourquoi en famille, les choses ne sont plus parfaites, alors qu'on a tous cette idée de qu'est-ce que c'est l'utopie, ce qui n'est peut-être pas l'utopie de tout le monde, déjà, parce qu'on n'a pas la même vision du monde, mais que on a des schémas qu'on répète. Et ce que j'ai trouvé en accompagnant différentes personnes, c'est qu'on est souvent, malheureusement, je trouve, addict. Et je trouve aussi, j'ai passé par ces phases-là, addict au drame, addict aux peurs, addict à tous ces schémas qu'on n'a pas envie de poser, mais c'est juste parce qu'on les connaît, qu'on a propagé depuis des années et des années. Nos parents faisaient comme ça. C'est comme ça que l'entreprise fonctionne. C'est comme ça que la famille fonctionne. Et donc, ça prend du temps et du courage, comme on a vu, de faire face à ça, de changer son comportement, que le reste, déjà juste le minimum de cas où je prends mon café avec quelqu'un le matin, j'ai l'habitude de la voir, d'acheter un café, on raconte ce qui se passe dans le département à côté. Je me suis créé un lien avec cette personne à travers ce que je raconte, toutes ces drames que j'aime bien, sans me rendre compte, en fait, que je perpétue. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le temps, qui font partie des valeurs de l'entreprise dont on n'en parle pas, mais c'est la partie cachée. Et c'est tout ça qu'on a besoin de mettre dans la lumière et de regarder de face et dire bah, « maintenant ça suffit ». Parce qu'en fait c'est la partie qu'on a acceptée, on a dit que c'était la norme de l'entreprise d'accepter ce peur, d'accepter ce comportement, et en fait on devrait plutôt faire un 180 et dire bah, « en fait c'est anormal, et le fait qu'on se comporte comme ça, c'est parce qu'on a les choses ». Que ben, ça sera mieux même pour nous, personnellement, chacun, en termes de notre bien-être, à lâcher. Mais que c'est un long travail, mais voilà, c'est ça. C'est, on a des addictions, je pense, à tout ce genre de comportement.
Mmh. Bertrand, tu veux dire quelque chose aussi?
Alors encore, sur la première question, c'est toujours un petit peu casse-figure de répondre. Pour moi, il y a un faisceau de facteurs. Il n'y a pas une seule cause, mais encore une fois, je suis loin d'être sûr que c'est pertinent ce que je vais dire. Toutes ces théories, alors, en fait, elles sont apparues. C'est un lent développement. Les premières mises en cause du taylorisme remontent, à ma connaissance, à 1935, quand même. C'est venu tôt. Bon. Simone Veil.
Oui, entre autres.
Mais bon, cette théorie, c'est les années 50, 60, George Friedman en France, MacGregor, etc. On est dans les Trente Glorieuses, une croissance importante, une paix sociale qu'on peut financer sur les profits. Sur la santé et l'inflation en fin de période. On peut se permettre beaucoup de choses. Donc, et là-dessus, je ne parle pas pour les penseurs, je parle pour les entreprises. Et puis là-dessus, les chocs pétroliers, crise économique à répétition, morosité durable. Au même moment, donc ça c'est un facteur, on se raidit dans un climat anxiogène. Et quand il y a un climat anxiogène, il y a la tentation de la mise sous contrôle. Premier élément pour moi d'explication. Deuxième élément d'explication qui me semble jouer un rôle d'amplification, c'est l'arrivée de l'informatique dans la gestion de l'entreprise. Ça, on est dans les années 80. Je ne parle pas de la digitalisation dont on parle aujourd'hui. L'arrivée de l'informatique. Et l'arrivée de l'informatique donne l'impression, et là on revient à notre conversation de pause,
Jacques Ellul.
Donne l'impression que on va pouvoir tout savoir avec des boucles extraordinairement courtes de remontée, et là on va avoir une approche de plus en plus technique, de plus en plus scientifique du fonctionnement, de l'organisation du fonctionnement des entreprises, avec des flux de reporting, des processus qui vont se complexifier progressivement, etc., jusqu'à créer une énorme bureaucratie à la tête des grandes entreprises, et qui fait qu'on s'écarte avec cette illusion de la possibilité de tout contrôler, enfin, de mettre le contrôle, on s'écarte complètement de cette autre voie. Bon. Là-dessus, le succès de méthodes que nous n'avons pas toujours très bien comprises, comme le Toyota Production System, troisième facteur qui fait que les entreprises, au lieu d'aller dans ce sens-là, vont plutôt aller dans le sens de l'hyper-processisation de leur fonctionnement. Michelin en est une vivante incarnation, hein, je peux vous dire. Et comme je l'ai contribué, je crois savoir de quoi je parle, pour le coup. Voilà. Et puis jusqu'au jour où on s'aperçoit que... ça, c'est pourquoi le retour. Jusqu'au jour où on s'aperçoit que on a hyper-processé tout, j'ai rien contre les processus, tout est normé, il y a des standards dans tous les coins, certains sont absolument justifiés, indispensables, d'autres sont plus esthétiques qu'autre chose, mais les gens les subissent, ceux qui sont esthétiques, etc., et perte de morale, désengagement. On a vécu ça chez Michelin très fortement. On a vu les effets de la mise en œuvre d'un système de production extrêmement rigoureux, extrêmement formaté, extrêmement uniformisé. Et c'est à ce moment-là qu'on a demandé à un pauvre type qui traînait quelque part de se dire « Est-ce que vous pourriez relancer une démarche de responsabilisation dans l'entreprise ?» Parce que si on fusionnait une autre façon de concevoir le travail et le management d'une part, et notre système de production qui quand même marche vachement bien, d'autre part, ce serait l'Amérique. Bon. Et là, ça redémarre. Et par là-dessus vient un deuxième élément qui va faire sortir cette démarche du cadre strict des usines. C'est toute l'interrogation des grandes entreprises, en tout cas, hein, des grandes entreprises sur le coût de leur superstructure. C'est-à-dire que cette hyper-processisation a conduit à l'explosion des structures de command and control, et ça coûte la peau des fesses aux entreprises. Alors ça leur coûte en masse salariale, ça leur coûte en frais de fonctionnement, et ça leur coûte également en agilité, en réactivité, en customer centricity, en innovation ordinaire, etc., etc. Donc, alors c'est des coûts cachés, disent les spécialistes, mais ils sont bien réels. Et ils sont bien réels. Et puis il y a un moment où, confusément, parce que je crois que c'est important de noter que c'est confusément, même dans la tête des très grands patrons, hein, confusément, à un moment, ils se disent mais notre système est devenu dingue. Alors ils ne savent pas si la démarche, pour Michelin, la démarche de responsabilisation va débloquer le système, mais ils se disent faisons des tests, allons-y prudemment. Mais pourquoi pas? Et si ça marchait, ce serait génial. Voilà. Moi, c'est un peu comme ça que j'explique les choses. Et alors, sur votre deuxième question, Laurent l'a dit, hein, vous avez répondu en posant la question, donc c'est bien où votre cœur balance. Alors, le mien balance dans le même sens. Le seul problème, c'est que quand vous commencez à avoir des laboratoires qui vivent ça, vous connaissez la rumeur, hein, l'ère de la calomnie dans le barbier de Séville. Bon, eh ben, dans l'année, vous avez tout un tas de clients qui attendent qu'on démarre. Donc, en fait, mon expérience, c'est que la communication, elle se fait malgré vous, en latéral. Pour ça, il faut resiloter tout ça, comme ça, on n'aura pas de problème.
Alors, peut-être Geoffroy et puis Yannick. Geoffroy.
J'ai une question sur l'aspect de la transformation personnelle. Alors, j'ai un présupposé que je vais d'abord expliciter. Quand j'ai entendu les deux orateurs, moi j'ai entendu, avec mon écoute de thérapeute, j'ai entendu un choix. Peut-être moins conscient de chaque côté, mais j'ai entendu une réelle situation de choix pour chacun, pour rentrer dans cette transformation personnelle. Et j'ai le présupposé que ce choix est nécessaire pour que ce soit une vraie transformation personnelle. Ça, c'est mon présupposé. Et donc ma question est la suivante. Si le leader choisit de rentrer dans une transformation personnelle qui entraîne son entreprise, qu'en est-il des collaborateurs? Est-ce que vous estimez que eux aussi, ils ont une transformation personnelle à faire? Et si oui, comment respecter leur liberté de choix? Et quels sont les ingrédients qui sont nécessaires pour qu'eux aient également un choix?
Merci. Alors, Bertrand,
question fondamentale. La réponse que nous avons faite à ça, c'est le volontariat. C'est-à-dire que et donc ne pas être pressé. Le choix, mais je ne sais pas si tout le monde ou des entreprises feraient ce choix-là, mais le choix qu'on a fait chez Michelin, c'est de dire que ce n'est pas un truc qu'on fait en mode projet avec un jalon numéro 1, un jalon numéro 2, un jalon numéro 3, jalon numéro 3 pas plus tard ou plus dans 2 ans, avec un payback de temps, etc. On se donne le temps et on dit. Mais ça se trouve chez Isaac Getz, par exemple.
Oui, bien sûr.
Hein, c'est le concept sur Philipson, la propagation virale.
Tout à fait.
En fait, on a demandé des volontaires, on a fait des trucs avec eux, on les a aidés à trouver des solutions, etc. On ne les a pas apportés. Et puis après, on a laissé les autres regarder. Et les gens démarrent comme quand ils veulent démarrer. Mais en ce moment, quelqu'un qui ne veut pas démarrer n'est pas forcé de le faire. Après, à l'intérieur même de l'entité, parce que c'est une réponse hypocrite que je vous fais si je ne la complète pas, à l'intérieur même de l'entité, si je suis par exemple la directrice des systèmes d'information du groupe Michelin, toute ressemblance avec une situation vécue et fortuite, et que je me dis c'est quand même génial ce truc et j'ai vraiment envie de soigner les SI comme ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ne sont souvent pas très... Alors, ce ne sont pas toujours très bien dans les entreprises. Il y a quand même un gros travail, ça c'était notre recommandation, hein, un gros travail à faire entre elle, son comité de direction et un certain nombre d'autres personnes judicieusement choisies à l'intérieur de l'entité pour savoir si ça répond à une sensibilité qui existe réellement à l'intérieur de l'entité. Mais nous, notre recommandation a toujours été ne le laissez pas au niveau du comité de direction. Allez chercher dans les entrailles de l'entité et essayez de savoir si, à tous les niveaux et dans toutes les natures d'activité de l'entité, il y a un véritable appétit pour ce genre de changement. L'action restant imparfaite.
Merci. Yannick ?
Nous avons eu 2 exemples. Pardon, vous étant tous les
deux. Non, après tu. Enfin, vas-y, pose ta question, puis tu répondras aux deux, peut-être.
Nous avons 2 exemples dans une entreprise déjà d'une certaine taille, 2500 personnes. Michelin, je ne sais pas combien cette personne, 50 000 ou je ne sais pas combien.
114 000.
114 000, ok. Et donc, si je comprends bien, dans les 2 cas, vous avez été un peu au démarrage. La direction a souhaité un moment expérimenter, se poser des questions. Et voilà, vous étiez ceux qui avaient un peu commencé ces expérimentations. Par exemple, vous avez décrit que vous aviez pris 4 ou 5 kilos et vous aviez essayé de leur donner une autonomie, que ça a pris 1 an. Tout ça a pris des années, si j'ai bien compris. Ma question, c'est, ok, une fois que ça a commencé à démarrer, que les expérimentations ont commencé à prendre forme, peut-être quelques années ont passé, comment on fait pour passer ça à 114 000 personnes, ou 2500 dans l'autre cas? Et quels moyens la direction y met? C'est-à-dire qu'au début, vous êtes tout seul, vous êtes peut-être 2, 3, 4, 5, j'en sais rien. Mais, je ne sais pas, vous êtes resté 5, 6 ans sur ce projet. Quand vous êtes parti, il n'y a toujours que 3, 4 personnes dans la direction générale qui s'occupent de ça et tout le reste est totalement autogéré. Ou est-ce qu'il y a maintenant une direction de la libération chez Michelin? J'en sais rien. Et quel type de moyens sont vraiment mis en œuvre pour l'usine aux États-Unis, l'usine en Chine, l'usine, etc., pour former les gens, pour initier ce processus at scale, si je peux dire, une fois que les expérimentations initiales ont été faites.
Je peux juste répondre à la première question.
Okay.
Je voulais juste rajouter
question posée, que je considère que tout est choix dans la vie, et que pour tout le monde, et que le fait que mon équipe vienne tous les jours me voir, to show up, comme on dit, c'est un choix, et je respecte ce choix. Et si je respecte la personne, justement, je suis d'accord que je dois respecter son chemin comme je respecte le mien. Et donc, mon cas, c'était mon cas personnel, c'était un peu, ça m'a tombé de nulle part. Dans l'entreprise, c'était totalement différent. C'était un peu annoncé, j'avais accompagné, mais dans ma vie personnelle, c'était, j'attendais absolument pas. C'était mon conjoint qui est parti, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, je n'attendais pas ça. Et j'ai pris le choix d'essayer de comprendre. Et je pense que c'est la première chose, c'est laisser de l'espace aux gens, juste essayer de voilà, comprendre peut-être, prise de recul, prise de conscience, qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est une étape très importante à laisser à n'importe qui. Et qui a ce côté, même si je ne les engage pas tout de suite, juste mon comportement parle tout seul. Et que si je décide de changer quelque chose, je peux toucher, je pense que les statistiques disent autour de 7000 personnes, et je ne coupe pas, comment on dit voilà, c'est ça, c'est exactement 7000. Et on voit ça très souvent, quand quelqu'un change de façon d'interagir avec les autres, ça a un impact sur les gens qui se disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer déjà tout de suite, et puis s'intéresse peut-être dans la famille, dans les amis. Pour moi, ça se passe souvent de la même manière, mais s'ils ne veulent pas, c'est ok, bon. Donc il y a tout ça. Tout dans la vie, je crois. La deuxième chose, je vais prendre la question en termes de transformation. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de trouver des personnes tout d'abord de confiance qui étaient prêtes à tester des choses ou qui m'avaient apporté des idées au départ. Donc des petits groupes très hétérogènes, de managers, de personnes faisant différents rôles dans l'entreprise. Si on m'a dit on va tester la CNV parce que ça va nous aider avec telle partie de la culture, venez, on va expérimenter ça ensemble et puis on va voir. Et puis par la suite, des gros introductions, pareil, sur un sujet totalement volontaire, ceux qui avaient envie de savoir. Voilà, ce que c'est la CNV, on prend quelqu'un pendant une heure, ils vont nous parler de ce que c'est. Et puis, s'ils sont intéressés, on va plus loin pour faire des formations. Mais ça venait toujours de cette démarche de « je mets à disposition une idée ». Mais j'avais la chance hein, que je pouvais expérimenter, innover comme ça. On faisait confiance pour le faire. J'avais juste à dire où ça liait par rapport à la stratégie. De toute façon, on cherchait encore... la stratégie de l'identité, donc ça permettait juste de tester l'eau et de tâtonner comme ça, faire à mesure en prenant différentes idées de différentes personnes. Et je trouve que c'est très important à la base, quand j'ai commencé à structurer justement la partie formation, tout était volontaire. Je tiens toujours à dire, vous venez pas, c'est ok pour moi, je n'ai pas de partie prise. Et si vous ne mettez pas en place, quand vous ne revenez pas à votre poste, c'est parce que vous n'avez pas vu de valeur dedans. Donc, soit je n'ai pas fait mon travail, ou sinon, en effet, on devrait être en train de chercher ailleurs. Donc, c'est comme ça pour moi. Je cherchais toujours à atteindre cette masse critique de personnes que je savais dès le départ allaient me faire un retour très authentique. Donc, voilà, aucun copinage sur des managers que je connaissais depuis des années, mais qui me donnent vraiment un retour sur ce que j'essaie de partager. Ça, c'est important. Comme ça, on se met en question, comme on est en train de partager la bonne chose à tout le monde. Et puis, ça va en parler dans les couloirs par la suite. Si ça a de la valeur, les gens parlent à d'autres personnes qui se disent « Oh, okay, moi aussi, j'ai envie d'aller tester ça. » Et donc, je travaille toujours de cette façon-là. Peu importe la taille de l'organisation, je pense, si les portes sont ouvertes par la suite pour que les gens peuvent découvrir aussi eux-mêmes, et que ce n'est pas juste réservé pour certaines personnes dans l'entreprise, au fur et à mesure, y a des choses qui se prennent.
Bertrand, là-dessus, tu as des choses à nous dire sûrement.
Sur le déploiement ?
Sur le déploiement.
La première chose qui me semble importante, le choix qu'on a fait, c'est de dire c'est un mouvement qui ne peut marcher que si on croise la volonté absolue d'un leader de changer de modèle, avec le changement de posture que ça occasionne chez lui, et je dirais la remontée de solutions par ceux qui font. Donc il faut un leader qui soit à la fois extraordinairement énergique et énergisant, ce qu'on appelle parfois l'inspiring leader, mais il faut qu'il soit extrêmement humble et qu'il se garde de la tentation de savoir mieux que les équipes la façon dont elles peuvent optimiser leur travail et leur rendu. Voilà. Et entre les deux, bah, il faut qu'il organise le mouvement et qu'il fasse. Bon. Ça veut dire que nous demandons à ces leaders de conduire ce projet eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on leur dit, tu ne délègues pas ça à un chef de projet, tu le fais toi, c'est toi qui le suis. Alors tu peux avoir quelqu'un, tu peux te donner une ressource pour faire la logistique et l'administration, si je peux dire, du projet. Hein, c'est peut-être pas toi qui vas animer les workshops, les machins et trucs, mais le pilotage de ce truc, le fait de savoir exactement ce qui se passe, comment c'est vécu, les tournées terrain qui vont te permettre de savoir, ta petite main qui va peut-être te dire que tu vas autoriser à te tirer par la manche pour te dire mais en fait il ne se passe pas du tout ce que tu crois, parce que faut pas se faire d'illusions. Bon. Ça c'est essentiel. Donc, libre à tel leader qui veut se faire aider sur la partie logistique administrative du projet de recruter quelqu'un, de se donner une ressource et de la payer, mais il doit être bien clair que c'est lui qui conduit le mouvement de A à Z. Ensuite, bon, en fait, on n'a pas. Je vais même vous dire, mon dernier acte avant de quitter l'entreprise a été de dissoudre ma petite équipe de responsabilisation. Voilà. On n'était pas nombreux, hein, on était 5. Mais je considérais qu'à partir du moment où nous avions accompagné les premières entités industrielles d'une part, tertiaire, hein, service d'autre part, et que grâce à ces expérimentations, nous avions été capables de livrer au comité exécutif du groupe un modèle de responsabilisation Michelin avec quelques éléments d'ingénierie, on devait être capable, avec l'énergie, la volonté de ces leaders volontaires et un réseau de ces petites mains travaillant entre elles, collaborant entre elles pour répondre comme une de façon coopérative aux questions qu'elles peuvent se poser, aux défis qu'elles peuvent rencontrer, ça devait marcher. Voilà. Donc actuellement, ce déploiement se fait avec ces ressources qui ne sont pas toujours des ressources totalement dédiées d'ailleurs.
Oui, Thierry.
Petite question pour chacun. Je vais commencer. Vous avez été responsable de formation. Donc si j'ai bien compris, il y avait une mutation à vivre. Quelles ont été les formations qui ont été ajoutées dans le programme pour justement être mieux équipé pour aller dans ces mutations, peut-être. Je ne sais pas s'il y a eu des formations de ce type-là.
Et ta deuxième question ?
Deuxième question pour toi, Laurent. Quand tu as montré les leviers, tu es passé un petit peu vite sur Lucy et Ryan.
Oui.
J'aurais voulu un petit commentaire pour mieux comprendre les leviers.
Ok. Oui.
Si possible. Et puis, la troisième question, c'est le point de bascule. Vous avez tout à l'heure mentionné que chez les résistants, il y a un point de bascule avec une deuxième étape qui était très importante. Accompagnement, ou je ne sais pas très bien. Là, je n'ai pas bien noté. Il y avait moyen de revenir sur cet élément-là. On a évoqué les plus résistants. Ah, le changement qu'il fallait faire en interrogeant leurs croyances. Et puis alors, il y avait un point de bascule. Qu'est-ce qui était important à ce moment-là ?
Je pense que la première chose, quand on a commencé à discuter entre les senior managers, juste en général, on constate qu'il manquait d'écoute. C'est un de ces phénomènes à l'époque BlackBerry et puis qui est devenu le smartphone, etc. que, bon, on n'allait pas bien loin si on ne s'écoutait pas. Donc la première chose qu'on a fait, c'est une petite formation, c'est quoi l'écoute active et pourquoi c'est important. Et si on aime bien être écouté soi-même, c'est, on peut donner ce cadeau à d'autres personnes. Donc on est revenu vraiment à quelques concepts de base pour commencer à essayer de tisser un peu de, voilà, un peu de respect. Parce que le respect, c'est une différente chose pour différentes personnes. Et voilà, c'était juste la base dans les réunions, première chose. Puis cette notion de feedback, parce que comme je disais un peu plus tôt, on l'a évoqué aussi dans les questions, bah, il manquait énormément d'authenticité dans les, ce qui était dit. Les gens disaient au début ce qu'on attendait d'eux, ce qui était de bonnes réponses un peu à l'école, c'est quoi la bonne ou la mauvaise réponse, bah, j'avais une réponse, surtout des jeunes managers qu'on avait invités par la suite de contribuer aussi. Donc oui, la deuxième chose, c'est que pourquoi c'est important de donner un feedback, donner mon avis, on t'invite à le faire, mais peut-être des façons de le faire, parce qu'on peut être très direct avec différentes personnes et on peut être dans la bienveillance. Donc c'est quoi la bienveillance aussi? Donc souvent mes premières choses étaient vraiment très très fondamentales pour, et en faisant ça, ça commençait déjà d'avoir une influence sur la culture. Parce qu'on est trouvé dans des situations assez rapidement où la personne qui sortait son smartphone, il y avait le groupe qui disait okay, est-ce qu'on peut le poser, même s'ils n'ont pas eu la formation. Donc ça propage assez vite parce que ça ne paraît naturel après. Après, j'ai eu quelqu'un qui m'a proposé des formations comme de la CNV et on a dû changer le nom parce que dire à tout le monde qu'ils sont violents, c'est un peu choquant. On a appelé ça la communication positive et c'est quelque chose qui semble un peu perroquet quand on commence à l'utiliser. Je ne sais pas si il y en a d'entre vous qui le connaissez, mais et donc c'est assez particulier. Il y a pas mal d'entreprises qui commencent à l'utiliser maintenant, ce qui est super. Mais à l'époque, personne n'avait entendu parler, il n'y avait pas beaucoup de développement personnel, et là où j'étais. Donc on a commencé à proposer aux gens qui étaient dans des pôles un peu plus conflictuels, qui avaient vraiment beaucoup de tensions entre la livraison des choses, entre les clients, entre internes, etc. Et on a dit, ok, ça, voilà. Ça peut t'aider, donc test, etc. Et c'est eux qui ont, un de mes premiers managers qui m'a dit, mais ça, pas simplement ça m'a changé, mais je suis convaincue que j'étais promue à cause de ça, parce que j'ai commencé à changer ma façon de dialoguer. Donc, et aussi, donc, c'est là qu'il y avait beaucoup de gens qui commençaient à me demander, est-ce que je peux utiliser ça à la maison aussi? Et bien, juste au travail. Oui, vous êtes la même personne au travail qu'au bureau, pardon, à la maison, j'espère. Donc, c'est ce qu'on essaye de partager. Donc, du coup, oui, le plus que vous pratiquez, le plus que ça va devenir naturel. Donc, c'était vraiment pour encourager ce dialogue qui n'était absolument pas là, en fait, au départ. Des gens dialoguaient, ils avaient envie de dire, on sentait dans l'émotion qu'ils avaient envie de partager leurs difficultés et pourquoi ils n'étaient pas d'accord, etc. Mais ça sortait pas, ça devenait des points techniques. Pourquoi je suis bloquée? Et donc, on n'arrivait pas à aller plus loin. Donc, je pense que ces choses-là sont fondamentales pour remettre l'humain afin qu'on puisse commencer à mettre des cartes sur la table et dire qu'est-ce qui ne va pas. Et chacun trouver leur place en disant ce qu'ils pensent. Et puis, par la suite, il y avait des choses beaucoup plus approfondies dans le dialogue. Et aussi dans c'est quoi la vision de la confiance, parce qu'on a tous une vue différente. Pour certaines, c'est d'être pas l'heure, pour d'autres, c'est ne pas divulguer les choses. Donc, on n'avait pas du tout toute cette notion de dimension dans tout ça, parce qu'on a juste faire comprendre à tout le monde qu'il y a différentes façons de voir le monde, parce qu'on n'en parle pas en entreprise. On pense toujours que l'autre personne en face va penser comme nous, parce qu'on est tous ingénieurs. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Et puis, on a testé par la suite l'utilisation de la pleine conscience. Je suis très partisan qu'il faut que chacun ait un espace pour pouvoir faire son travail intérieur, mais ça, c'est une chose. Mais déjà, juste dans l'entreprise, de pouvoir prendre du recul par rapport à ce qu'on est en train de traiter pour développer la créativité, pour avoir de la clarté, etc. Donc on a testé pour différentes raisons. Mais la pleine conscience aussi, ou une autre façon, un autre outil similaire, ça aussi, surtout au milieu de transformations comme ça, est pour moi absolument fondamental.
Très rapidement, par rapport à Desi et Ryan, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que fondamentalement, enfin, eux, ils ne disent pas tout ça, mais ce qu'ils vivent, c'est effectivement tout ce qu'on a discuté ce soir, en fait, toute une série de pratiques, en entendant bien qu'il n'y a pas de méthodologie, il n'y a pas de standard. Donc, il y a ici le témoignage de Nadia, de Bertrand, ils ont fait des choses, mais on ne peut pas en distiller une méthode unique qui permettrait la transformation. Ce que disent simplement à travers ce que je vous ai montré d'Essy et Ryan, c'est que contribuer à satisfaire ou à ne pas frustrer les besoins fondamentaux psychologiques qui sont évoqués peut se faire à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des relations de travail dans l'équipe, de la façon dont la gouvernance de l'entreprise est mise en place, mais aussi au niveau du pays. Et donc que c'est vraiment à tous les niveaux qu'on peut contribuer à la rencontre de ces, ou à la satisfaction de ces besoins psychologiques.
J'étais juste perturbé par voir une structure hiérarchique dans les leviers. C'était juste ça.
Oui, mais il faut plutôt le voir en partant de la plus petite cellule vers la plus grande, si tu veux. Parce qu'ils disent qu'effectivement, la façon dont ces besoins psychologiques sont perçus, travaillés au niveau même de la nation ou d'un pays, influe également à tous les niveaux, si tu veux. C'est surtout ça, je crois, qu'il faut en retirer. Merci.
Le point de bascule.
Oui. Alors,
je pense que c'est la révélation des déclencheurs, non ?
Oui.
Oui, parce que, alors, pour préciser, alors, vous cherchez à savoir plus précisément, plus concrètement comment ça peut se matérialiser ou...
Enfin, au-delà d'avoir provoqué le questionnement des croyances, j'ai dit, à ce moment-là, ils sont prêts pour le point de bascule, et puis, voilà, ils importe à
oui,
ce
c'est
moment-là
ça.
D'ajouter un élément.
Ce qu'on a constaté, c'est que... malgré tout, il y a une chose que nous avions, notre tout petit groupe, là. Et au début, le petit groupe était vraiment très, très solitaire. Nous y avions beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi. On avait lu Desi et Ryan, on avait lu McGregor, on avait lu les psychologues du travail, les sociologues des organisations, machin. On a vraiment bossé comme des dingues, hein. Faut pas croire. Et puis on croisait tout ça avec nos propres expériences. Enfin bon. On s'est aperçu que finalement, bah eux, ils n'avaient pas fait ce boulot-là. Ce qui est bien normal. Bon. D'autant qu'une des maladies du temps moderne, c'est notre temps de société technique, merci élu,
oui.
Hein, c'est qu'on réfléchit beaucoup à la technique de son métier, mais un manager réfléchit beaucoup à la partie technique de son métier, il réfléchit peu à l'essence du management dans une carrière, si vous y regardez bien. Bon. Or, là, on touche vraiment à ce sujet-là. Qui mobilise philosophie, sociologie, psychologie, anthropologie, enfin tout ce que les cadres d'entreprises industrielles n'ont pas. Et il n'y a aucun reproche dans ce que je dis. C'est mes frères. Voilà. Donc, au bout d'un certain temps, on s'est dit, en fait, ils sont comme une poule devant un couteau, intellectuellement et sentimentalement, il ne faut pas négliger le sentiment, et sentimentalement, ils se disent, non, c'est vrai, il faudrait qu'on le fasse, mais ils ne trouvent pas la clé pour ouvrir la porte. D'où le déclencheur. Et c'est là qu'on s'est dit, il faut qu'on leur trouve un truc qui leur permette de passer à l'acte, comme on dit. Bon. Alors, c'est quand même marrant de voir d'où sortent les choses, hein, parce que c'est comme le diable de sa boîte. Hein. On a sorti, là je parle des business lines, enfin des choses comme ça, de la stratosphère. Bon. On a sorti la théorie, qui est une théorie constitutionnelle française, remontant à 1958, si vous voyez de qui je parle, et qui s'appelle la théorie du domaine réservé.
Mmh, bon. Ben oui.
Alors, oui, je sais que ça t'intéresse. Hein, mais oui. Grâce à vous, il va le savoir.
Oui.
théorie du domaine réservé, c'est au moment où la constitution de la Ve République s'est mise en place en France, De Gaulle avait dit, article 20 de la Constitution, l'action du gouvernement est entre les mains du Premier ministre, ça a bien changé, est entre les mains du Premier ministre, et moi, j'ai un domaine réservé composé des affaires étrangères et de la défense. Donc, sur les autres sujets, le Premier ministre, avec les membres du gouvernement, instruit les dossiers, prend les décisions. À partir du moment où ça a des implications dans l'un de ces deux domaines, je veux savoir. Bon, domaine réservé. Mais enfin, l'action du gouvernement a été vaste. Hein. Bon. Et on s'est dit, mais en fait, c'est ça la clé. Donc, on va faire en sorte que ces leaders, l'acte fondateur de la mutation, ce soit la définition de leur domaine réservé. Comment ? Je ne veux surtout pas leur demander à eux de le faire. Parce qu'ils vont avoir une liste qui va être longue comme ici et la sortie de la salle. Donc, l'exercice qu'on leur faisait faire, enfin bon, c'est pour vous donner un exemple, c'est pour amuser, on les mettait dans un petit KGB, connexe à une salle dans laquelle il y avait leur équipe, et on posait la même question aux deux, le leader tout seul dans son KGB, quels sont les domaines sur lesquels tu penses vraiment qu'il est impensable que tu n'es pas ton mot à dire dans la décision. Et puis à l'équipe, simultanément, on disait la même chose. Et puis après, on regroupait tout le monde, et on disait, bon, quelle va être la shortlist qui va constituer le domaine réservé du chef. Alors, non, vous allez rire, mais à chaque fois, on est sorti avec une assez shortlist, sachant qu'on fait jamais bon du premier coup. Bon, mais on y revient 6 mois après, et on ajuste. Et c'est marrant parce qu'on ajuste toujours en réduisant plutôt qu'en augmentant, de ma petite expérience. Bon. Et puis alors évidemment, il faut s'effondrer quand même sur des critères. Dis-nous les critères suivant lesquels tu penses que ça peut pas... Bon. C'est l'affaire de David Marquette,
oui. Hein,
qui est dans l'invitation là. C'est moi, le missile nucléaire, je peux pas leur demander d'assumer la responsabilité. Donc je le fais moi-même. Voilà. C'est un peu des choses comme ça. Chez W. Al Gore, c'est la ligne de flottaison. Hein, à partir du moment où vous risquez de faire un trou en dessous de la ligne de flottaison, là, vous me demandez.
Ouais.
Bon. Bon, vous voyez, c'est des critères comme ça. Il faut être concret, hein, très simple, hein, bon. Très, très orienté action. Et après, alors c'est-à-dire qu'après, il y a une petite subtilité, mais je suis peut-être...
Non, pas du tout.
Il y a une petite subtilité parce que, et ça c'est important pour les thérapeutes, soit dit en passant, non, parce que... Non, je vous en prie, continuez. c'est que, à partir de ce moment-là, on va dire, dans une équipe qui est toujours pluridisciplinaire, bon, bah, y a des problèmes qui apparaissent, des décisions à prendre, mais qui relèvent un coup de la qualité, un coup des finances, un coup de la technique, etc. Et on se dit, bon, voilà, c'est une équipe pluridisciplinaire, il y a un leader d'expertise finance, un leader d'expertise. Bon, ils se débrouillent avec les décisions. La seule chose, c'est qu'avant, ils allaient ouvrir le parapluie en parlant au chef, maintenant, ils ne peuvent plus. Bon, voilà. Et là, facteur de souffrance. C'est-à-dire que sur les problèmes vraiment épineux, là, la personne peut se retrouver isolée. Et l'isolement crée de la souffrance, crée de la vulnérabilité, etc. Et donc là, on s'est demandé, comment est-ce qu'on peut éviter ça? Et là, on a sorti, deuxième diable, qui sort de sa boîte, le principe de collégialité. Et là, le principe de collégialité, on l'a associé à l'idée, un, que la responsabilité collective, ça ne marchait pas. La responsabilité collective est égale pas de responsable. Non, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. Non. Bon. Donc, la collégialité, bon, il fallait quand même se demander jusqu'où ça allait et comment ça s'organisait. Enfin, toujours est-il que l'idée, c'était on n'isole pas une personne face à ses responsabilités. Et ça, c'est un principe. Alors là, on l'a vraiment posé très fort. Hein. Et donc, la collégialité, c'est l'acte par lequel, dans une équipe, sur certaines décisions, le processus décisionnel, alors le leader d'expertise, celui qui a le problème, le met sur la table, le fait instruire par son équipe, robustifie sa décision, prend sa décision lui-même, motive sa décision, c'est pas loin de l'IRS process, hein, motive sa décision, et derrière, en assume les conséquences seul, mais avec la solidarité des membres de l'équipe. C'est-à-dire que tous les membres de l'équipe s'attacheront d'abord à porter, à traduire fidèlement dans leurs propres équipes le contenu des décisions, son esprit, et ne la débineront pas par derrière. Ce qui n'existe pas toujours dans les organisations traditionnelles, soit dit en passant. Voilà. Donc, voilà. Et là, à partir du moment où la tête de chaîne déclenche ce truc, en fait, on s'aperçoit que chaque membre de l'équipe, dans ses propres équipes, fait la même chose la semaine d'après, et qu'on va très très vite dans un mouvement de responsabilisation assez massif.
C'était ça la clé.
Merci pour la clé.
Mais écoutez,
Je trouve formidable de terminer là-dessus, Bertrand. Moi, ça me parle vraiment. Et je pense que toute la clé est là, finalement, de ce mouvement, alors on l'appelle de responsabilisation, c'est d'articuler la responsabilisation individuelle et collective. Hein, comment faire que les deux, qu'on sente qu'on a vraiment quelque chose pour lequel on est responsable et accountable, comme on dit aussi en anglais, mais que par ailleurs, les autres sont solidaires, malgré tout. Et que s'il y a une merde, si ça foire quelque part, on ne va pas tout de suite dire « Ouais, c'est toi qui as merdé », mais c'est tout le monde qui essaie de trouver des solutions au problème avant de trouver un coupable. Ça, je crois que c'est une des clés du succès de tout cela. Mais enfin, j'en arrête là, parce qu'il est temps de vous laisser aller dormir, de décanter tout ce que vous avez entendu ce soir. En tout cas, je voudrais vraiment remercier Nadia, Vincent et Bertrand de leur présence. Pour ceux qui le veulent, enfin il y en a toute une série qui sont inscrits, on continuera demain avec eux toute la journée sur ces questions. Et vraiment, enfin, merci à vous tous d'être là ce soir pour clôturer ce cycle. On va préparer un nouveau cycle pour l'année prochaine avec Joël qui est juste en face de moi. Mais en tout cas, d'ici là, bonnes vacances. Je mettrai les slides que j'ai présentés sur le site de Philoma pour ceux qui le veulent, je sais qu'il y en a qui l'ont demandé. Il y aura le podcast, l'enregistrement de ce qu'on a discuté ce soir. Et voilà, encore un grand merci à vous tous et surtout merci à Nadia et à Bertrand.
Bonne soirée.
Bonne soirée, merci pour votre patience. Ange.